manque de micro tout ça. Bonjour à tous. On se fait un peu de ménage. Très heureux d'être là et de poursuivre ce moment de culte avec déjà tellement de choses. Merci à la chorale pour l'enthousiasme avec lequel vous nous avez fait chanter. Pour le reste aussi, mais bon. D'autres éléments sont plus classiques. Là, ce n'est pas tous les dimanches qu'on a droit à cette prestation musicale, donc merci. Il y a 15 jours, Jean-Haut a dû faire une prédication un peu short, parce qu'il y avait eu beaucoup de choses déjà qui avaient été faites dans la première partie. Mais il a lu un verset biblique, un texte, qu'il a d'ailleurs un peu répété dans son mail qui arrive en général le lundi ou le mardi, et qui a travaillé dans ma tête depuis 15 jours. Alors je lui ai demandé, il m'a donné l'autorisation de poursuivre un peu sa réflexion. Pas vraiment de copyright sur les versets bibliques, donc on peut faire. Mais en fait, voilà, c'est un prolongement de choses que nous avons entamées il y a 15 jours. C'est dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et c'est quelque chose que je vais appeler la séquence magique. Alors, je mets des guillemets à magique, évidemment, il n'y a rien de magique, mais c'est pour donner un titre. Voilà. Et je vais vous proposer de lire dans les Colossiens, au chapitre 3, à partir du verset 12, passage assez long. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Vous avez compris que ma séquence, c'est les cinq doigts de la main que je viens de montrer, on y reviendra. Et je continue la lecture, « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, ce que nous faisons ce matin, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. » Là, je vais prendre des tomates. « Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Voilà, je ne lis pas plus loin que cela. Ce texte un peu long, je reviendrai sur certains passages, vous avez compris, il s'adresse clairement à des chrétiens, il commence, vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, il s'adresse à nous, en tant que communauté chrétienne qui voulons vivre pleinement ce que nous proclamons, ce que nous chantons, ce que nous croyons, ce en quoi nous voulons dire que nous croyons. Et donc, c'est une espèce de séquence que j'ai trouvée en écoutant Jean-Haut l'autre fois, avec ces cinq thèmes, se supporter, se pardonner, aimer, construire la paix et être reconnaissant. Cette séquence, je la trouve particulièrement parlante et je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi qu'elle peut s'appliquer à tellement de domaines de notre vie. C'est pourquoi j'ai lu la suite de ce texte où l'apôtre Paul, après avoir en quelque sorte bâti la théorie et décrit cette séquence, prend trois exemples trois exemples dans la vie. Ces trois exemples, c'est la vie de famille, c'est la vie au travail, et puis c'est la vie d'église. Peut-être il aurait pu, s'il était au XXIe siècle, parler de la vie de loisir, puisque c'est un élément important de notre vie. Voilà, en tout cas, il prend des exemples qui couvrent finalement une très large partie de notre existence pour montrer que cette séquence magique, elle mérite d'être mise en application. Alors peut-être quelques mots d'abord sur les différents termes. Supporter. Supportez-vous les uns les autres. Alors, Jean-Doux, vous avez parlé de ça. Est-ce que ça veut dire que rien ne nous atteint? Est-ce que ça veut dire que rien n'existe, que nous sommes un peu naïfs, que nous sommes dans un monde de bisounours où il ne se passe jamais rien? Bien sûr que non. Ce n'est pas cela. Si une offense a été faite, bah, elle a été faite. Si une blessure a été faite, elle a été faite. Il ne faut pas non plus croire que parce que nous sommes chrétiens, nous vivons dans un monde hors sol. Dans l'évangile de Luc, Jésus, au chapitre 17, dit « Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se reprend, pardonne-lui. » Donc, voilà, il peut arriver que des choses se passent qui ne nous vont pas. Et certains comportements peuvent appeler à une réaction dans tous les milieux, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille ou dans tout autre endroit où nous nous trouvons. Mais l'engagement qui nous est demandé là, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui vaut la peine de rompre le lien? Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts d'accepter des choses difficiles parfois parce que nous refusons de rompre? Se supporter, ça veut dire que malgré tout, on va continuer à marcher ensemble. Ça veut dire que malgré tout, on va continuer à avancer. Dans l'Épître aux Romains, Paul prend un certain nombre d'exemples qui étaient de son époque. Et il dit, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Pour des choses comme ça, qui peuvent nous séparer, nous devons apprendre à accepter la différence de l'autre, accepter que, bah, malgré tout, il faut supporter et il faut continuer à avancer. L'exemple suprême pour peut-être évidemment Dieu lui-même avec la nature humaine, depuis le début, toute la Bible nous raconte à quel point Dieu a dû nous supporter, depuis le récit de du déluge, ou jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, et bien au-delà, et au travers de tout ça, le nombre de fois on voit la Bible qui nous montre, c'est un peu anthropomorphique, mais ça nous montre Dieu qui s'énerve après ces gens qui, il y en a marre quoi, de les accompagner. Il dit à Moïse, je vais les détruire, puis avec toi je reconstruis quelque chose de neuf. Mais Moïse convainc Dieu, c'est une façon de raconter l'histoire, évidemment. Que non, il faut continuer, l'histoire continue. Et Dieu nous supporte. Alors nous aussi, nous devons avoir ce thème dans la tête. Le deuxième élément de la séquence, pardonner. Là aussi, l'exercice n'est pas simple. Pardonner, des fois, on met là-dedans des choses qui sont peut-être au-delà de ce que nous sommes capables de vivre. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire oublier. Si je te blesse et que tu as une cicatrice, parce que je t'ai blessé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale d'ailleurs, la cicatrice ne va pas forcément s'en aller. Par contre, il m'appartient de décider si je la mets au centre de ma vie et maintenant et pour toujours, et que chaque fois que je vois Aïk, je dis ça parce que c'est le premier devant moi, hein, mais non, on s'est pas battu, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais si je décide, de chaque fois que je le vois, de repenser à ça, et de, je ne suis pas dans le pardon. Alors il y a une autre attitude, c'est de se dire, voilà, il s'est passé quelque chose, on s'en est expliqué, la cicatrice, elle est là, mais je décide de mettre ça derrière moi. Le pardon, est-ce que ça n'est pas un peu ça? C'est décider que rien ne mérite de déclencher la guerre, si j'ose dire. Vous savez, vous connaissez ce beau texte dans Michée qui dit que Dieu pardonne nos péchés et qu'il les mettra sous vos pieds et il les jettera au fond de la mer. Au fond de la mer, c'est ça que nous sommes appelés à faire. Pardonner, ça veut dire ça. Quand quelque chose nous est arrivé qui est difficile, nous sommes appelés, une fois que nous avons franchi les étapes de compréhension peut-être, d'explication sans doute, mais de jeter ça au fond de la mer et dire voilà, maintenant on passe à autre chose. Ça n'est plus ça qui va guider ma vie. Dans le récit de la Genèse, où Caïn va finir par tuer son frère, quand l'offrande de Caïn est moins acceptée que celle d'Abel, bon alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais peu importe, ce n'est pas vraiment le sujet. Son visage est abattu. Et Dieu lui dit, mais pourquoi gardes-tu ton visage abattu? Il dit, vas-y, redresse la tête, et puis tu verras que ça ira, tu vas pouvoir continuer à vivre. Mais si tu restes dans cet état d'esprit, si tu gardes ta colère en toi, si tu refuses de la jeter derrière ton épaule, alors le péché va dominer sur toi. C'est lui qui va gagner. L'apôtre Pierre, quand il était avec le Seigneur, à un moment, on lui dit « Mais Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» Jusqu'à 7 fois, je pense que quand Pierre disait ça, il trouvait déjà que c'était pas mal. Et Jésus, qui était sans doute un bon mathématicien, lui dit « Je te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois, 7 fois, 490 fois, mais je pense que ça voulait dire infiniment. » C'est pas une question de calcul, c'est une question d'engagement. Dans quel sens est-ce que je veux continuer à vivre avec les personnes qui sont autour de moi? Et je ne peux le faire que si je décide de jeter derrière moi, ou de jeter au fond de la mer, prenez l'image qui vous paraît la plus parlante, des choses qui ont pu me heurter, qui peuvent m'empêcher d'avancer. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, c'est au chapitre 2, mentionne le cas d'une personne qui a dû être sanctionnée dans l'église, bon, on ne sait pas exactement pour quelle raison, et apparemment, on continuait à l'ostraciser et puis à le mettre de côté. Et Paul dit, attends, c'est bon, ça suffit. C'est bon, il y a eu une sanction. Alors, encore une fois, on ne sait pas s'il avait piqué dans la caisse ou j'en sais rien, mais l'histoire ne nous le dit pas. Mais ce que dit l'apôtre Paul, dit, maintenant, ne devriez-vous pas plutôt l'accueillir parmi vous, lui pardonner et lui permettre de se remettre debout et de recommencer à vivre parmi vous et à continuer à grandir avec vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Vous connaissez par cœur ce verset de la première épître de Jean, 1 Jean 1,9. Le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. Il nous pardonne. C'est-à-dire que quand il nous pardonne, il y a des très beaux textes qu'on cite souvent, où on dit, par la croix, il a effacé l'acte de condamnation. Il a déchiré le papier, il a jeté les péchés au fond de la mer. On décide d'avancer parce que ce qui nous blesse, ce qui nous heurte, ce qui nous pose problème, nous décidons de le mettre derrière nous. Et la suite de la séquence, c'est « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Aimer, ça aussi c'est compliqué, parce que c'est un mot qui est tellement polysémique, ça veut dire tellement de choses, aimer, entre l'amour charnel, l'amour platonique, l'amour philosophique, etc., et toutes les déclinaisons, et des amours interdites, et tout ce que l'on veut. C'est un mot qui est chargé de tellement de significations. Peut-on aimer tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire si je dis « Je vous aime tous » Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il faudrait prendre chacun individuellement et voir ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous. Peut-être l'exemple du bon samaritain peut nous parler. Cette histoire, encore une fois, qui est connue, qui a fait l'objet de tellement d'œuvres d'art, de tableaux, de choses comme ça. Personne se trouve blessé au bord de la route, il a été attaqué par des brigands. Et puis il y a du monde qui passe sur cette route, donc... Des personnages un peu bien habillés, costard, cravate, etc. Martin Luther King, paraît-il, dans un de ses sermons, avait fait une astuce en disant que peut-être le prêtre et le lévite qui passent, ils étaient pressés parce qu'ils allaient à une réunion de l'association pour améliorer la sécurité sur la route de Jéricho. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'arrêtent pas en chemin et ils continuent leur route. Bon, c'était une illustration, mais il y en a un qui s'arrête. Il s'arrête parce qu'il considère que il ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le blessé mérite son attention. Il mérite son attention. Aimer les gens, ça veut dire penser qu'ils méritent votre attention. Ça veut dire penser qu'ils sont là autour de vous, et voilà, il vous a été donné de faire un bout de route avec, et ça vaut la peine de faire l'effort de leur prêter attention, d'être attentif à leurs besoins. Pourtant, le Samaritain adorait Dieu sans doute de manière différente de celui qui est au bord de la route. Il était quelqu'un de pas très très respectable, je sais pas, c'était des gens un peu bizarres, ces Samaritains. Peu importe, il décide de descendre de sa monture et d'aller prêter assistance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on rentre dans cette dynamique, dans cette logique-là, on crée une dynamique. Parce que non seulement le Samaritain, il va porter des soins, il va, etc., mais du coup, il prend la personne, il va engager l'hôtelier aussi, l'aubergiste. Il amène le blessé chez l'aubergiste et lui dit « je t'embarque dans l'aventure en quelque sorte ». L'amour crée l'amour, enfin l'engagement pour aimer les gens parce qu'il nous est donné de les côtoyer, ça va aussi créer une dynamique. Et c'est l'hôtelier, par exemple, qui va être embarqué là-dedans. Et puis après, l'histoire s'arrête parce que c'était une parabole avec une petite image courte. Mais c'était cette idée que, après avoir franchi les deux premières étapes, se supporter, Accepter que parfois c'est compliqué avec les autres, mais ça ne vaut pas la peine de rompre pour autant. Pardonner, c'est-à-dire décider que ce qui me blesse, ce qui m'ennuie, ce qui me gêne, je le mets derrière moi parce que ce n'est pas là-dessus que je veux construire quelque chose. Ça entraîne cette relation où finalement je me rends compte que l'autre vaut la peine que je m'occupe de lui. Et c'est un peu ça, aimer les gens. Après, il y a certaines circonstances particulières, hein, mais de manière plus générale. Et puis la quatrième étape de cette séquence magique, comme je l'ai appelée, fabriquer la paix, le lien de la paix. Une fois que ces étapes sont franchies, une fois qu'on a avancé dans ce sens-là, bien sûr, nous sommes en paix. On a parlé de la paix ce matin, on a chanté sur la paix, on a l'étoile star là nous a fait découvrir dans la boîte que c'était ça le mot du jour. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est dans les béatitudes, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et donc si on a décidé de ne pas rompre la relation, si on a décidé de jeter le problème derrière nous, si on s'est dit que l'autre mérite que je m'intéresse à lui et donc que je l'aime, alors est-ce que la paix ne va pas petit à petit naître, grandir et irriguer toute chose, hein. Ça a été dit un peu ce matin, c'est cette paix qui, même si on est dans une période troublée, compliquée, effectivement, Jean-Haut l'a rappelé, avec beaucoup d'incertitudes, chez nous, en France, dans le monde, un peu partout, de manière différente selon les intérêts des uns et des autres, la paix de Christ, qui vient de cette succession d'engagements que nous pouvons prendre, elle peut véritablement se répandre. Et j'avais noté le verset qui nous a été lu tout à l'heure par la star. Mais je vais le lire de façon un peu différente. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 2, « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi, fidèle collègue, je te demande de les aider. » Et puis ça continue, et c'est là qu'on trouve « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Et le verset termine avec ce qui nous avait été projeté tout à l'heure, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pourquoi j'ai lu déjà à partir du verset 2? Parce que ça commence par deux sœurs dans l'église qui se fritaient. Elles se crêpaient le sillon, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà, il y avait manifestement un différent. Et donc l'apôtre Paul dit « Attendez, remettez-vous ensemble, remettez-vous à discuter. » Et il demande même un médiateur, quelqu'un qui va aider pour rétablir la paix. Et donc, il leur demande de passer par ces étapes, se supporter, même si elles ne sont pas d'accord, pardonner, c'est-à-dire décider qu'on laisse ça de côté et puis on va avancer, on va continuer à avancer. Considérer que ce que l'autre dit mérite que je m'y intéresse, parce qu'il est peut-être blessé au fond de lui, il a peut-être quelque chose qui a besoin d'être réparé et je dois l'aimer comme un frère, une sœur en Christ. Et donc, à partir de là, nous allons ensemble pouvoir travailler à ce que la paix s'établisse. Et c'est quelque chose où chacun est appelé à amener sa pierre. Et le dernier élément de cette séquence magique, si j'ose dire, c'est d'être reconnaissant. Est-ce que nous savons assez être reconnaissants pour ce que le Seigneur nous donne? Alors, oui, on chante parfois « Compte les bienfaits de Dieu ». Voilà, alors c'est bien. C'est tout à fait favorable, évidemment, à ça. Mais ça veut dire que notre vie chrétienne, notre engagement chrétien, c'est quelque chose que nous devons véritablement vivre au plus profond de nous. Vous savez, dans le texte, le premier texte que j'ai lu dans Colossiens, dans les versions un peu plus modernes, on dit « revêtez-vous d'ardente compassion ». Mais dans les versions plus anciennes, et en étant proche du texte original, c'est « revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». Alors bon, ça fait un peu charcuterie, mais bon, c'est... À l'époque, on disait, voilà, les sentiments, on les plaçait plutôt dans le ventre. Aujourd'hui, maintenant, la remontée, c'est dans le cœur, et on en oublie le cœur, on en fait quelque chose de formidable. Mais revêtez-vous c'est des « bowels of mercies » en anglais. C'est vraiment des boyaux de miséricorde. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, soyez pris aux tripes, parce que le Seigneur vous demande de vivre. C'est pas seulement dans la tête, c'est pas seulement de la théorie, c'est pas seulement le dimanche de 10h à midi. C'est véritablement quelque chose qui doit nous motiver, nous inciter à changer nos comportements parce que nous sommes pris aux tripes. Il s'agit de notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi je vais donner quelques commentaires sur les trois schémas de vie que l'apôtre Paul prend pour illustrer, en tout cas c'est comme ça que je lis ce passage. La première des choses, c'est dans l'Église, hein, le verset 16. « Instruisez-vous, avertissez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez à Dieu de tout votre cœur. » Alors, on est bien dans le cadre de l'Église. Et bien, dans l'Église, nous avons besoin d'apprendre à mettre en application cette séquence magique. Parce que l'Église, c'est avant tout un rassemblement d'êtres humains. Il nous est dit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus ». Est-ce que nous faisons toujours tout au nom du Seigneur Jésus ? Vous savez, bien des églises connaissent des tensions. Déjà, dans les premiers temps, l'apôtre Paul, dans ses lettres, pointe du doigt un certain nombre de choses. J'ai parlé des Vodis et Saintiges tout à l'heure, mais l'église de Corinthe, manifestement, était avec des gens qui se réclamaient la paternité ou la plus grande gloire. Les Galates, il y en avait qui voulaient revenir à des traditions anciennes. Enfin, vous lirez tout cela. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un petit livre, c'est « Les Pères apostoliques ». Ce sont donc les premiers évêques des premières églises chrétiennes un peu partout autour de la Méditerranée qui ont encore connu les apôtres. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les pères apostoliques. Donc Clément de Rome, Barnabé, Ignace d'Antioche, Polycarpe, etc. etc. Je me disais, je n'avais jamais lu ça. Donc je me suis dit, tiens, c'est quoi ? C'est entre notre époque, en quelque sorte, et le Nouveau Testament. Comment les choses se sont poursuivies ? Et on s'aperçoit là-dedans que, allez, 60% de ce qu'ils écrivent, c'est pour pointer du doigt des divisions, des querelles dans l'Église, en leur demandant de se mettre d'accord, d'arrêter, d'écouter leur évêque, de ne pas faire des schismes, etc. etc. C'est, si vous voulez, je vous le prête, l'œil. C'est assez intéressant. Bon, c'est intéressant. Je vous ai fait un résumé, voilà, vous savez à peu près tout. Mais c'était juste pour illustrer ça. On connaît tous des choses comme ça. Notre Église, avant d'eux, a passé des périodes où on aurait pu effectivement avoir des conséquences plus graves. Ça arrive dans toutes les Églises. On connaît bien des très chers amis qui ont une Église qui marchait bien, tout allait bien, ça prospérait, ça allait. Ils avaient même agrandi leur bâtiment, reconstruit quelque chose de grand, etc. Et puis, il y a eu des querelles, il y a eu des tensions, il y a eu des choses, et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et puis le résultat, c'est que la moitié de l'Église est partie ailleurs. Du coup, l'autre moitié qui reste, ils se retrouvent avec un immense bâtiment qu'ils n'arrivent pas à payer en plus, etc. Voilà, des choses comme ça. Malheureusement, ce sont des choses qui existent. Et sans doute que, si je peux garder ma séquence magique, au départ, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas supporté ce qui se passait, qui n'ont pas été capables de supporter la tension, le ressenti négatif, la difficulté à accepter l'autre tel qu'il est. Le fait qu'ils chantent certains chants qui ne me plaisent pas forcément toujours, hein, ça peut arriver. Ou qu'il a une théologie trop ceci, ou pas assez cela. Et du coup, tout de suite, on monte les choses en épingle. L'apôtre Paul, toujours dans les Philippiens. Philippiens, c'est une des dernières épîtres hein, qu'il a écrites, c'est une épître assez tardive. Il dit à ces gens-là, au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Dans l'Église, nous avons besoin d'apprendre à mettre en œuvre cette séquence magique, se supporter. Se pardonner, ça veut dire que oui, il peut y avoir des mots qui vont trop loin, des attitudes qui vont trop loin. Est-ce que nous sommes capables de passer outre et de dire c'est bon, on a réglé le problème, je continue, on passe à autre chose. Aimer les autres, parce que nous sommes tous des enfants du Seigneur, nous sommes tous appelés à marcher avec lui, même si nos chemins sont tous différents. Et puis, créer la paix, les conditions pour que la paix puisse régner. Il y en a qui sont un peu trop église verte, oui c'est ça, j'ai oublié de citer dans l'église, hein, s'il peut y avoir des choses comme ça qui pourraient créer des tensions. Non, pas avec l'Église, c'est un cousin quand même, ça ne peut pas. Au début de l'Église, hein, rappelez-vous quand même les tensions entre les Juifs qui se convertissaient et les païens qui se convertissaient. Il a fallu qu'on réunisse la conférence de Jérusalem, c'est dans les Actes au chapitre 15. Et l'apôtre Pierre, dans une de ses prises de parole à l'occasion de cette conférence, dit « Mais pourquoi voulons-nous mettre un joug sur ces gens qui viennent d'une autre culture que nous ?» En parlant de ceux qui venaient de l'Empire romain, quoi, on va dire, au sens large. Et il ajoute « Parce que nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur Jésus qu'ils sont sauvés de la même manière que nous. » Voilà qu'est-ce qui est le centre de tout ça, quand nous sommes dans l'Église. Alors, est-ce qu'on peut aimer tout le monde dans l'Église ? Est-ce que nous sommes capables de pardonner tout le temps ? Est-ce que je suis un ouvrier de paix ou au contraire un fauteur de troubles ? Est-ce que je suis capable de supporter les autres ? Tout ça doit nous interroger évidemment en permanence. Et dans le verset que je citais dans l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul invite à réintégrer quelqu'un qui avait été sanctionné pour une raison qu'on ignore, le passage au verset 11 mentionne « afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous ». Car nous n'ignorons pas ses desseins. Et là, on parle du témoignage que nous avons apporté, de ce qu'est l'Église dans le monde, comment l'Église est là aussi pour apporter, d'une certaine manière, la paix dans un monde qui en a tellement besoin. Et donc, peut-être que parmi les qualités qui sont proposées dans le texte de Colossiens, revêtez-vous de, ben je vais choisir l'humilité peut-être. Peut-être que pour que dans l'Église on applique cette séquence magique, ben c'est d'abord l'humilité. Qui suis-je pour décider de ce qui est bien et ce qui est mal, qui a tort, qui a raison et vers où il faut aller? Parce que nous sommes tous sauvés par le sang de Christ. Le deuxième exemple qui est pris ici, il faut que j'aille vite parce que sinon ça va nous entraîner. C'est la famille. Je ne veux absolument pas me prononcer sur ce que dit Paul précisément. N'oublions pas, il parle dans son contexte. Et on a, voilà, ces femmes, soyez soumises à vos maris, machin, etc. Ce que je retiens simplement de ce texte, au-delà de quelque chose qui est contextuel et qui est très différent, évidemment, de ce qu'on dirait aujourd'hui, et on ne pourrait certainement pas prononcer des paroles comme celle-là, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul dit que c'est un endroit où il y a besoin de garder la cohésion et de travailler pour garder la cohésion. Et la famille, on peut lui donner un sens très resserré, la famille nucléaire avec papa, maman et les deux enfants, ou un sens plus large. Et c'est aussi un endroit, un lieu, un domaine où ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre cette séquence magique. C'est un terrain d'exercice spirituel, et je crois qu'on le vit tous, tous ceux qui vivent une vie de famille savent que, effectivement, c'est parfois compliqué. Parce que c'est ainsi, parce que nous sommes faits ainsi, qui doit nous amener à certainement beaucoup de prières, beaucoup d'humilité, beaucoup de bonté. Hein, parmi les qualités proposées, l'ardente compassion, les entrailles de miséricorde, hein, il y avait aussi la bonté là-dedans. Revêtez-vous de bonté, et c'est quelque chose qui doit nous marquer. C'est parfois compliqué, il y a des phases aiguës. Mais ce que propose l'apôtre Paul, c'est chercher effectivement dans ce milieu-là, qui finalement est important pour chacun d'entre nous, de supporter ce qui commence à tirailler, pardonner, c'est-à-dire faire ces démarches pour accepter de mettre derrière nous ce qui coince, aimer l'autre en essayant de lui apporter ce que nous croyons utile, chercher la paix, chercher à ce que les choses redeviennent, soient ou restent paisibles, qui n'est pas toujours facile. Il y a des phases aiguës, parfois nous n'y arrivons pas. Tout cela existe, nous ne croyons pas plus forts que d'autres, ni plus méritants, ni que sais-je, parce que c'est quand même toujours un lieu où, effectivement, nous avons besoin de l'aide du Seigneur et d'être reconnaissant quand, effectivement, la paix règne et quand les choses s'apaisent, redeviennent vivables et quand le pardon est effectif. Et puis le troisième domaine que prend l'apôtre Paul comme exemple, c'est le domaine du travail. Là encore, on ne va pas commenter le fait qu'il parle de maître et d'esclave. Bon, c'était la société de son époque. Évidemment, aujourd'hui, on parlerait autrement, on dirait autre chose, puisque les relations, la société a évolué, et on n'est plus dans ce type de schéma d'organisation sociale. Mais ce qui est intéressant, là encore, c'est de se dire que ce soit le subordonné par rapport à son patron, ou le patron par rapport à son collaborateur, dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a un maître au-dessus. Travaillez comme pour le Seigneur, et au patron, il dit, n'oubliez pas que vous avez un maître au-dessus de vous. C'est-à-dire que personne n'est détenteur de la pleine autorité, et pourtant c'est tellement un milieu qui est capable de faire souffrir les gens, c'est tellement un milieu qui est capable d'apporter de la division, de la tension, et pour lequel on a véritablement besoin d'apprendre là aussi à supporter des situations difficiles, à pardonner, c'est-à-dire, encore une fois, c'est pas, on va pas voir les gens en disant « je te pardonne », mais décider qu'on met les choses derrière et qu'on va passer à autre chose. Un peu, je reprends les différents points de ma séquence. N'oublions pas que c'est un lieu aussi où nous sommes chrétiens, même si on est dans un contrat de travail qui, lui, est laïque. On est en France, hein, bien sûr. N'empêche que nous sommes chrétiens. Et en gros, 35 heures par semaine, beaucoup plus pour un certain nombre, notre témoignage est à l'épreuve dans le milieu du travail. Donc il est quand même bien important de se poser la question « comment je vais mettre en œuvre cette séquence magique ?» Alors c'est sûr que si notre patron c'est Elon Musk ou Carlos Tavares, peut-être qu'on va dire différemment, encore que je ne sais pas, je n'en connais comme vous que ce qu'on lit dans la presse et ce qu'on écrit. Donc c'est pas fondamental. Donc, dans ce que veut dire ces trois exemples, en tout cas tels que je les ai entendus, lus et médités depuis 15 jours, c'est que dans tous les domaines de notre vie, il est important de réfléchir à ce que j'appelle cette séquence, mais bien sûr, ça ne se passe pas toujours dans ce sens-là, c'est pas quelque chose de mathématique, de systématique, etc. Bien sûr, c'est juste cinq éléments qui doivent nous permettre de vivre une vie qui sera à la gloire du Seigneur, qui lui permettra de maintenir la paix grâce à nous, avec nous, malgré nous parfois, parce que parfois c'est aussi malgré nous que Dieu arrive à faire vivre les choses. Et je termine vraiment avec le dernier verset que j'ai lu et qui doit être celui qui nous permet de soutenir tout cela pour que nous puissions supporter les choses, pour que nous puissions pardonner au sens où décider de mettre derrière nous, pour que nous puissions aimer l'autre parce qu'il mérite d'être aimé et qu'il a été aimé en Jésus-Christ autant que nous, et pour que la paix puisse naître grâce à notre intermédiaire, malgré nous ou avec nous en quelque sorte, pour que la reconnaissance puisse parler et être là, c'est persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce, que le Seigneur nous aide à suivre ce chemin jour après jour et à apprendre petit à petit à mettre en œuvre tout cela pour sa gloire. Je vous invite à la prière, justement.